général constitué par sa femme, ses enfants, ses esclaves et la maison. Ce domaine s'appelle le Manipyo. Étymologiquement, ce que le père de famille tient, capere, capio, sous sa main, manus, capere. Manipyo veut dire domaine paternel. Et lorsque le pater familias, parce que lui seul en jugeait, n'est-ce pas, aujourd'hui c'est la loi, c'est l'âge, juge que le jeune homme, la jeune femme n'est pas là en cause, est capable de voler par ses propres ailes, il prononce une formule qui permet l'ex-mancipatio, la sortie du Manipyo, ex hors de Manipyo, domaine paternel. Et on appelle émancipatio à Rome la sortie du jeune homme hors du domaine paternel. Et par extension, le mot latin émancipatio, devenu en français émancipation, a pu désigner la sortie de toute dépendance. C'est pourquoi on parle de l'émancipation des esclaves, c'est leur affranchissement, l'émancipation des colonisés, l'émancipation des prolétaires, l'émancipation des Noirs, l'émancipation des femmes, comme sortie de la tutelle masculine et de la dépendance. Eh bien, la laïcité est bien l'émancipation des femmes, le processus d'émancipation des femmes, elle n'est pas simplement une sécularisation. Je vais vous donner un exemple de sécularisation notoirement insuffisante. La notion machiste de chef de famille se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On la retrouve dans les évangiles et on la retrouve dans le Coran. Je vais y venir. Mais la notion de chef de famille, elle a pour origine une notion religieuse qui sacralise la société patriarcale, c'est-à-dire qui présente comme voulu par Dieu l'organisation patriarcale de la société où l'homme domine la femme. Lorsqu'Yvette Roudy découvre dans le livret de mariage la notion machiste de chef de famille, le mari est le chef de famille, il choisit le domicile conjugal et sa femme est tenue de le suivre, elle décide, conformément aux revendications des féministes, de supprimer cette notion. Cette notion pourtant venait d'être sécularisée. Elle n'était plus religieuse, elle apparaissait dans le code civil. Comme quoi d'ailleurs la Révolution française, à travers son code pénal et son code civil, n'avait pas fait son travail complètement. Elle ne l'a pas fait complètement, puisqu'il a fallu que l'homme de gauche réclame la reconnaissance des droits de la femme et de la citoyenne, et elle ne l'a pas fait complètement parce qu'elle s'est contentée de transposer la notion religieuse de chef de famille, elle-même reprise à l'idéologie patriarcale de chef de famille, elle l'a transposée dans l'autorité civile. Or, là où on voit que la définition de la laïcité comme sécularisation, c'est-à-dire transfert à des autorités séculières inscrites dans le siècle, de ce qui jadis était assuré par des autorités régulières, c'est-à-dire les ordres monastiques, eh bien, ça ne suffit pas, n'en déplaise à Bob Hérault, aux partisans de la laïcité ouverte, à M. Manin, à M. Gaucher, à tous les penseurs qui aujourd'hui nourrissent une attaque voilée, mais à peine voilée, contre la laïcité. La laïcité, ce n'est pas seulement la sécularisation, c'est l'émancipation de la loi civile par rapport à la loi religieuse. Cette émancipation, Yvette Roudy, ministre des droits de la femme, la mène lorsqu'elle, effectivement, décide de supprimer la notion machiste de chef de famille et de dire l'autorité parentale sera exercée conjointement par le mari et la femme. Aujourd'hui, notre gouvernement vient d'oser créer un ministère à l'intitulé abject, ministère des droits de la femme, de la famille, et je ne sais trop quoi, et de l'enfance. Voilà, mesdames, vous voilà réassignées au rôle de procréatrice par une association entre droits de la femme, enfance et famille. C'est pas mal quand même pour un gouvernement qui se dit socialiste et prétend émanciper les femmes. On est mieux inspiré. Quand M. Sarkozy avait créé le ministre de l'immigration et de l'identité nationale, on avait été tout aussi scandalisés, mais ce n'était pas trop surprenant venant de sa part, mais lier l'identité nationale Ah, la question de l'immigration, c'est quand même suggérer, insinuer que l'immigration porterait atteinte à l'identité nationale, ce qui est absolument abject, et je pèse mes mots. Moi, petit-fils de l'immigration espagnole, Pena Ruiz n'est pas un nom très français, c'est pas Dupont ou Durand, mais je considère que je suis citoyen de cette belle République française qui porte sur les frontons de ses mairies liberté, égalité, fraternité. Et ça me paraît bien que le creuset français puisse faire vivre ensemble des citoyens et des citoyennes de toutes origines, parce que effectivement, l'origine ne doit pas être mise en avant. Ce qui compte, c'est le respect de la loi commune. La loi commune, en France, c'est la laïcité. Ce qui ne veut pas dire l'hostilité à la religion, mais ce qui veut dire l'indépendance de la loi par rapport à une religion qui, souvent, et je pense que c'est le cas des trois monothéismes, du judaïsme, du christianisme et de l'islam, une religion qui, souvent, alors qu'elle prétendait parler au nom d'un Dieu éternel, s'est alignée sur les préjugés historiquement déterminés de la société patriarcale. Il y a un défaut de transcendance là. Les prêtres qui ont attribué à leur Dieu les préjugés patriarcaux se sont sans doute trompés, parce que les préjugés patriarcaux sont historiquement déterminés. Or, si Dieu est éternel, ça colle pas. Les pensées d'un Dieu éternel ne peuvent pas être liées à une donnée complètement historique et relative. Voilà, donc. Le premier moment de notre itinéraire de réflexion est à peu près mené à son terme. Je voulais justifier le titre de cette conférence que nous avons décidé ensemble avec Jacqueline, la teneur. Voilà donc comment on peut considérer que l'émancipation de la femme est effectivement de portée universelle. Elle porte l'humanité à son meilleur accomplissement, comment elle passe non pas par la lutte contre la religion, mais contre la domination politique de la religion, et comment effectivement elle permet, dans une société laïque, à tous les êtres humains, et ce sera le dernier point de cette première partie, elle leur permet à tous les êtres humains de choisir leur éthique de vie. Les gens qui ont manifesté dans la fameuse manif pour tous, c'était souvent des catholiques intégristes. Mais de quoi se plaignaient-ils? Dans le mariage pour tous, il n'est pas demandé aux partisans du mariage traditionnel, c'est-à-dire du mariage hétérosexuel tourné vers la procréation, il ne leur est pas demandé d'abandonner leur éthique de vie. Si des catholiques intégristes ne veulent faire l'amour que pour faire des bébés, libre à eux, la laïcité n'oblige pas à faire l'amour plus souvent. Ce n'est pas l'orgasme obligatoire, la laïcité. Donc, effectivement, ils étaient tout à fait capables de continuer à vivre selon leur éthique de vie traditionnaliste, mais ce qui leur est ôté, c'est le fait que ce mode d'accomplissement cesse d'être le seul. Ce qui est affirmé, c'est que à côté de ce mode d'accomplissement traditionnaliste, qui reste libre, il y en a d'autres. L'union libre, le Pacs, le mariage, non pas tourné vers la procréation, mais si deux êtres ont envie de se marier et de cultiver la sexualité uniquement en vue de la jouissance et sans faire d'enfants, libre à eux. Bref. Si deux êtres du même sexe veulent se marier, libre à eux, pourvu qu'ils se respectent mutuellement. Autrement dit, le mariage pour tous construit une structure relationnelle universelle qui peut accueillir toutes les modalités, toutes les éthiques de vie. Et en ce sens, la laïcité, comme vous le voyez, ne rejette pas la tradition. Ce qu'elle rejette, c'est le fait que la tradition soit désormais imposée, puisqu'elle accepte d'autres façons d'être. Ceci remonte d'ailleurs à la philosophie du droit qui,
comme on le voit chez des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau ou même Locke, considère que l'État moderne, l'État de droit, n'a plus à imposer une conception de la vie bonne. L'État doit être neutre en matière de conception de la vie bonne. Vous êtes libre de vous marier, de ne pas vous marier, de faire l'amour pour des bébés ou de faire l'amour pour le plaisir ou pour les deux. Bon, moi, République, moi, Marianne, je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai simplement à organiser la coexistence des libertés de telle façon qu'elles ne soient pas conflictuelles. Et pour cela, j'entends rappeler les principes de droit qui s'imposent à tous les êtres humains dans leur rapport. Toute violence est bannie. Tout viol est banni. Mais sitôt que les règles de droit sont respectées, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai pas à dire, il est mieux d'être hétérosexuel dans le mariage que d'être homosexuel. Je n'ai pas à dire, il est mieux de faire des enfants que de ne pas en faire. Tout cela doit relever de la liberté de la sphère privée. La femme qui ne veut pas d'enfants, qui estime qu'elle peut s'accomplir autrement qu'en faisant des enfants, doit être absolument libre de pratiquer cette éthique de vie. La femme qui veut des enfants également. La femme qui veut conjuguer l'acte sexuel pour le plaisir et pour les enfants également. La femme qui ne veut que le plaisir également. C'est-à-dire qu'effectivement, on comprend que ce qui apparaît là avec la laïcisation, ce n'est pas l'immoralité, ce n'est pas le crime, ce n'est pas le nihilisme, c'est l'ouverture des modes d'accomplissement vers leur pluralisme, vers leur pluralité. Et c'est en cela qu'une société laïque est beaucoup plus libre qu'une société régie par une religion qui s'imposerait à tous, qui imposerait son mode d'accomplissement. Il y a des pays encore aujourd'hui où les homosexuels sont assassinés. Il y a des pays où la femme est violentée. Il y a des pays où les petites filles sont tuées à la naissance parce qu'on veut des petits garçons. Il faut rompre avec ces traditions d'inhumanité. Et il faut rompre aussi, j'y tiens, avec l'idée que la culture pourrait justifier les pratiques. Il faut respecter, évidemment, la diversité des cultures. Mais tout n'est pas respectable dans une culture. La culture judéo-chrétienne, par exemple, n'empêchait pas qu'encore au début du 19e siècle, le bourreau tranchait le poignet de celui qui avait abîmé un symbole religieux. C'était le même châtiment que le châtiment du parricide, c'est-à-dire de celui qui avait tué son père. Donc effectivement, il est clair dans cette optique-là que cette émancipation de la femme est poursuivie non pas pour instaurer un dérèglement généralisé, mais pour au contraire ouvrir les registres d'accomplissement et les modes d'accomplissement, pour qu'effectivement on puisse considérer que cette émancipation est un droit légitime des femmes. Ce n'est pas du tout une émancipation particulière, c'est l'émancipation de l'être humain, de la même façon que l'homme a le droit d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir des enfants, par le truchement des femmes, ou d'une autre manière, la femme doit avoir le droit de décider de donner la vie, comme le disait le mouvement choisir, comme le disait le mouvement féministe, le planning familial, etc., Simone Veil, c'est-à-dire toutes les personnes qui jouèrent en France un rôle déterminant, le MLF, le mouvement de libération des femmes, le manifeste des 300 salopes, 343 salopes, effectivement, il y a là une lutte pour l'émancipation. Voilà, j'en ai terminé avec ce premier moment en espérant avoir été clair. Maintenant, précisons quand même, dans un deuxième moment, ce que fut l'époque de la femme dominée, parce que pour mesurer l'importance de cette émancipation, il faut voir à quoi on échappe. Il faut voir à quoi on échappe. Il faut se souvenir toujours des oppressions auxquelles on a échappé. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une sorte d'amnésie qui est cultivée par les médias. On ne parle plus du passé, comme si ce n'était pas bien de parler du passé. Moi, je crois qu'il faut parler du présent, du passé, Pour mieux préparer l'avenir, il faut savoir à quel type de pression on échappe. Il faut que l'on sache que le capitalisme faisait travailler les enfants à l'âge de 6 ans. Il faut que l'on sache que l'espérance de vie était tout à fait modeste et qu'elle dépendait largement de l'origine sociale. L'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui encore diffère de 7 ans entre les plus démunis et les classes laborieuses et les classes les plus favorisées. Il en va de même pour la femme qui souvent cumule deux aliénations. Si les femmes de prolétaires cumulent l'aliénation des prolétaires et l'aliénation de la femme qui est soumise à la double journée, très souvent. Donc effectivement, rappelons le passé. Rappelons ce que j'appellerais l'époque où la domination de l'homme sur la femme était effectivement traditionnelle. Cette domination, on voit qu'elle a été codifiée dans les religions du livre, qui toutes les trois, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont nés et se sont constitués dans leur émergence dans des sociétés patriarcales, où la femme était, comme le dit Simone de Beauvoir dans le titre éponyme de son livre, le deuxième sexe. D'abord, dans la création, la femme est créée après l'homme. Elle est même tirée d'une partie du corps humain. Il faut donner une compagne à l'homme. Il ne faut pas donner un compagnon à la femme, il faut donner une compagne à l'homme. Déjà, on voit comment toutes les formulations vont inscrire dans les consciences humaines un principe de légitimation de la domination de l'homme sur la femme. Alors, lisons un texte de l'Ancien Testament qui est assez terrible. L'Ancien Testament met dans la parole de Yahvé, Jéhovah, Dieu donc, ce discours explicite à l'égard de la femme. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Je cite, traduction de l'Ancien Testament dans l'édition de la Pléiade. La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Yahvé Elohim dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme dit, le serpent m'a dupé, j'ai mangé. Yahvé Elohim dit au serpent, puisque tu as fait cela, maudit sois-tu entre les bestiaux et entre tous les animaux des champs. Sur ton ventre tu marcheras et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. J'établirai une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et sa race. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu la viseras au talon. À la femme il dit, je vais multiplier tes souffrances et tes grossesses. C'est dans la souffrance que tu enfanteras des fils. Ton élan sera vers ton mari et lui, il te dominera. Les choses sont claires, n'est-ce pas? Quelle que soit la traduction, et j'ai consulté trois traductions différentes du texte de l'Ancien Testament, parce que je veux pas que des hellénistes ou des amateurs d'hébreu viennent me dire que je cite un texte sans avoir vérifié le texte original. Donc, universitairement, faut toujours, à propos des textes traduits, consulter toutes les traductions possibles et disponibles. Quel que soit le cas, cette traduction me semble être la plus claire et la plus simple. Vous remarquerez déjà que la physiologie de la femme est invoquée pour justifier sa souffrance. Je vais multiplier tes souffrances et tes grossesses, c'est dans la souffrance que tu enfanteras des fils. On sait que le docteur Lamaze a importé en France, dans les années 1950, la technique de l'accouchement sans douleur. Et qu'avec un certain nombre d'exercices, d'accompagnement du diaphragme, etc., la femme peut non pas supprimer totalement la douleur, mais la limiter considérablement. Ce qui défatalise singulièrement la souffrance biblique préconisée comme étant consubstantielle à la nature de la femme. En plus, on multipliera tes souffrances et tes grossesses, ça veut dire que, après le péché originel, bon, la maudite cueillette, on a cueilli le fruit de l'arbre de la connaissance du mal du bien. Le paradis était pratiquement parfait. L'homme et la femme levaient la main, ils cueillaient les fruits, ils n'avaient pas besoin de travailler, tout allait bien. Mais ils s'assortissaient d'un interdit, donc d'une tentation. Ne pas cueillir du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent, énigmatique présence dans un paradis, constitue la possibilité objective de la tentation, donc du mal. Mais à cette possibilité subjective, objective doit bien correspondre une possibilité subjective. Si Dieu avait fait les hommes infaillibles, ils n'auraient pas péché. Or, s'ils pêchent, c'est-à-dire s'ils transgressent l'interdit, n'est-ce pas la preuve qu'ils ont été faits faillibles par Dieu ? D'où d'ailleurs l'énorme problème dans lequel vont se débattre les théologiens, notamment au Moyen-Âge, pour expliquer qu'un Dieu tout-puissant et infiniment bon ait pu créer un être faible et faillible. S'il est infiniment bon, il doit et il veut ne faire que le bien, et s'il est tout-puissant, il a la possibilité d'empêcher le mal. Or, l'homme commet le péché originel. Et de ce péché, vous voyez, l'Ancien Testament rend immédiatement responsable de la femme. C'est incroyable parce que Adam, lorsque Elohim l'interpelle, dit « C'est elle, c'est pas moi, c'est elle. La femme que tu as mise au point de moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Qu'as-tu fait ? Donc, la faute vient par l'homme. Non, vient par la femme, pardon. Ça, c'est un lapsus révélateur. La faute vient par la femme. Et la sanction tombe aussitôt. Tu enfanteras dans la douleur. Et aussitôt, inexplicable prononcé de domination, ton élan sera vers ton mari. Il y a d'autres traductions, tes désirs te porteront vers ton mari. Et lui, il te dominera. Autre traduction, et lui dominera sur toi. Anankaiasos, c'est le terme grec. C'est l'idée d'une volonté, d'une domination. Que vient faire là la domination de l'homme sur la femme après le péché originel? On comprend qu'en liaison avec les souffrances de la grossesse, il est clair qu'il s'agit de faire expier à la femme la faute qu'elle aurait commise en incitant Ève, en incitant Adam, à absorber la maudite pomme. Donc voilà la femme totalement culpabilisée. Et plus tard, quand elle séduira l'homme, ce sera elle qui sera responsable du désir de l'homme. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les trois monothéismes. Pourquoi la femme doit-elle se voiler dans le Coran ? Parce qu'elle ne doit pas séduire l'homme. L'homme, lui, il a toute liberté de séduire, de se balader avec sa barbe au vent, barbu, et plus barbu il sera, et plus visible sera sa barbe, plus il sera convaincu de sa paternité et de sa malitude ou de sa virilité. Bon, on voit comment ici le texte religieux du judaïsme, qui pourtant prétend par la transcendance s'affranchir des conditions immédiates de l'histoire, ne fait que sacraliser le rôle dévolu à la femme dans la société patriarcale. Ce qui est étonnant ici, c'est que des religieux qui théoriquement devraient parler des choses éternelles parlent de choses historiques et les sanctifient au point de leur donner un caractère éternel. Ce qui veut dire qu'une femme croyante qui lit ce texte, si elle attribue à son Dieu une telle affirmation, doit-elle se soumettre ? Ou doit-elle abandonner sa religion ? Il y a une troisième solution. Il y a une troisième solution, c'est qu'elle se pose elle-même la question, cette phrase est-elle de Dieu ou est-elle d'êtres humains qui interprètent la volonté de l'homme? Qu'est-ce qui fonde cette phrase? Est-ce que la soumission de la femme à l'homme est légitime? Qu'est-ce qui la fonde? La femme est-elle moins intelligente que l'homme? Est-elle un cerveau moins développé? Non. Impossible à admettre. Donc, Dieu peut-il se tromper à ce point qu'il considère la femme comme un être inférieur à l'homme? Une croyante posant cette question est déjà sur le chemin de l'émancipation. Parce que de quoi doit-elle s'émanciper? De l'idéologie qui l'assigne à résidence. C'est une émancipation contre l'idéologie, c'est-à-dire contre une conscience mystifiée qui fait que la victime d'une domination intériorise la mystification et en vient à considérer comme normale sa soumission à l'homme. Eh bien non. Une chrétienne, une femme juive de confession juive et une femme musulmane peuvent très bien dire ceci. Dieu ne peut pas partager les préjugés des hommes parce qu'il est éternel et parce que les préjugés des hommes sont historiquement déterminés. Par conséquent, elle peut interpréter le texte comme le fit Averroès, grand penseur musulman, en disant cette sourate, ce verset du Coran heurte ma raison. Eh bien, je dois l'interpréter au second degré pour qu'il ne heurte plus ma raison. Une femme de confession juive peut faire le même travail. Ton mari dominera sur toi. Lui dominera sur toi. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Mais dans quelle société est-ce que je vis? Je vis dans une société où moi, femme, je suis soumise à l'homme. Par des lois sociales, par exemple, dans la théocratie islamiste, un témoignage d'homme vaut deux témoignages de femme. Donc la femme n'a pas les mêmes droits juridiques que l'homme. Elle peut se demander pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étrange dans le fait que le texte sacré, supposé traduire une parole éternelle, partage le préjugé d'une époque historique? Et cette question, la femme de confession juive, de confession chrétienne et de confession musulmane, peut la poser. Il n'y a pas un monothéisme pour relever l'autre dans la défense des droits des femmes. Elles sont les trois monothéismes contemporains sociétés patriarcales ont tous instauré cette domination de l'homme sur la femme. Idéologiquement, je pense en toute sincérité qu'une femme croyante, profondément croyante, peut très bien se désolidariser de certains textes sacrés qui sacralisent la domination de l'homme sur la femme dès lors qu'elle peut se dire à elle-même « Dieu ne peut pas partager les préjugés d'une époque ». Que faut-il qu'elle fasse à ce moment-là? Qu'elle se demande en toute raison si la domination de l'homme sur la femme est fondée sur quelque chose d'irrésistible et d'incontestable, et que si elle répond par la négative, elle puisse se dire « Donc là, ce n'est pas Dieu qui parle. Ce sont des hommes appartenant à une époque déterminée et reproduisant ces préjugés. » Donc ici, c'est ce qu'on appelle, en termes savants, l'herméneutique du mot grec herméneia, qui veut dire interprétation. Il y a plusieurs interprétations possibles du texte sacré. Et l'interprétation littérale, souvent, coïncide avec les préjugés d'une époque révolue. Alors que l'interprétation au second degré peut très bien, effectivement, dessaisir la littéralité de sa fonction normative. Et à ce moment-là, il y a émancipation. Alors, émancipation dans la tête, c'est-à-dire que la femme cesse d'intérioriser la domination et de la considérer comme normale et voulue par Dieu. Il lui suffit de se dire, là ce n'est pas Dieu qui parle, ce sont des hommes qui partageaient les préjugés de leur époque. Or, nous vivons une époque où on ne peut pas admettre ce préjugé de la domination de l'homme sur la femme.